Vous êtes sur RTL.
Et à la une de ce nouveau journal, l'émotion, la colère et l'immense sentiment de frustration chez cet homme qui a assisté mardi à la mort de Shaïnaise, cette mère de famille brûlée vive par son mari. Il a tenté en vain de la sauver, vous l'entendrez dès le début de ce journal. La vaccination ouverte à tous ou presque dès mercredi, on vous dira comment vous y prendre. Et puis en football, le choc du Nord ce soir en Ligue 1 avec le derby Lens-Lille.
RTL Matin.
Toujours beaucoup de questions sans réponse après la mort de cette mère de famille de Mérignac, brûlée vive par son mari. Comment cet homme a-t-il pu échapper à tout suivi judiciaire alors qu'il venait de faire de la prison pour violence, déjà sur son épouse? Le gouvernement a lancé une mission d'inspection qui devra rendre ses conclusions mardi. Il avait décidé de la punir, a dit hier le procureur de la République de Bordeaux. L'homme a expliqué en garde à vue qu'il soupçonnait sa femme d'avoir un amant. Sur ce qui s'est passé précisément mardi en fin de journée sur ce meurtre atroce, je vous propose le témoignage de ce voisin qui a vu toute la scène. Témoignage RTL recueilli par Denis Grandjou.
J'ai vu la femme qui était dans le caniveau, la tête dans le caniveau et allongée sur le trottoir, et le gars qui lui déversait le bidon. Alors moi j'ai hurlé, je lui ai dit d'arrêter, je l'ai traité de tous les noms, de salopard, tout ce que je pouvais. Il n'a jamais détourné la tête. Il s'est baissé, puis il a allumé avec son briquet. Et quand je suis arrivé dessus, j'étais à 1m50, il m'a braqué avec un pistolet. La femme, elle hurlait à côté parce qu'elle était, il y avait des flammes comme ça, un mètre. Et puis il m'a regardé, mais visage vide. Hein. Et puis il est parti en petite foulée. Moi j'ai foncé tout de suite dans le garage prendre des couvertures. Et puis je suis ressorti avec pour essayer de faire ce que je pouvais. Mais vu ce qu'il avait mis comme produit, on éteignait d'un côté, ça repartait aussi sec de l'autre. Et puis après, les couvertures ont pris feu. Et si vous voulez, moi ce que j'ai en tête, c'est cette dame, elle n'est pas morte tout de suite. Hein. Et elle implorait du regard, elle implorait, on voyait ses lèvres qui essayaient de dire quelque chose. Et puis vous êtes là comme un idiot. Et puis après, il y a une dame qui est venue avec un extincteur. On a fini d'éteindre, en fait, en quelque sorte. Et puis, après, moi, j'ai appelé la police. Et puis après, tout s'est enchaîné, quoi.
Témoignage RTL signé Denis Grandjou. Alors, comment mieux lutter contre les féminicides? Il y en a eu 39 hein, depuis le début de l'année. Quels sont les dispositifs qui existent aujourd'hui? On fera le point complet avec la brigade Cindy Hubert dans une quinzaine de minutes. L'autre drame qui a marqué cette semaine, c'est le décès de ce policier, Éric Masson, à Avignon avant-hier soir lors d'une intervention anti-drogue. Le meurtrier est toujours en fuite malgré l'important dispositif déployé pour le retrouver. Une femme est en garde à vue. Elle avait, semble-t-il, acheté de la drogue sur ce point de deal. La victime avait 36 ans. Éric Masson était le père de deux enfants. Les syndicats de police appellent à une marche citoyenne le 19 mai à Paris. Denis Jacob est le secrétaire général Alternative Police CFDT.
Une telle unité syndicale tout corps, tout grade de mémoire de policiers, la dernière qui a été aussi forte, et on verra la mobilisation, mais je n'en doute pas, remonte à 2001. La situation est suffisamment grave pour qu'on arrête de faire de longs discours et que l'on passe aux actes.
Propos recueillis par Pierre Collat. Des tirs de mortier sur un lycée, ça s'est passé à Montataire dans l'Oise hier à la mi-journée. Pas de blessés, pas de dégâts signalés. L'action visait, semble-t-il, une conseillère principale d'éducation. Une enquête a été ouverte. Il est 5h04 sur RTL. Le vaccin pour tous, ou presque. Emmanuel Macron ouvre les vannes de la vaccination dès lundi, les plus de 50 ans, avec 5 jours d'avance sur le calendrier prévu. Et puis dès mercredi, tout le monde, quel que soit son âge, pourra prendre rendez-vous sous réserve qu'il reste évidemment des doses. Les précisions avec vous, Virginie Garin.
Oui, à partir du 12 mai, vous pourrez consulter sur Internet les plateformes de rendez-vous, Keldoc, Doctolib ou Maya. Et si dans un centre près de chez vous, vous trouvez un créneau disponible le jour même ou pour le lendemain, vous aurez le droit de vous inscrire, même si vous n'êtes pas éligible. Donc, si vous avez moins de 50 ans et que vous êtes en bonne santé, ce qui permettra aux centres de bien remplir leur carnet de rendez-vous et d'utiliser toutes leurs doses, sachant qu'ils sont désormais approvisionnés chaque semaine et en grande quantité. Vous pourrez vous inscrire donc grâce à une une case supplémentaire, un nouveau motif de rendez-vous qui va être créé sur chaque plateforme, qui pourrait s'appeler « Pour ne pas perdre de dose ». Tout sera précisé dans les jours qui viennent.
Virginie Garin, alors c'est un sérieux coup d'accélérateur et une réponse à tous ceux qui regrettaient de ne pas pouvoir se faire vacciner car trop jeune par rapport au public prioritaire. Alors est-ce que vous êtes concerné? Vous avez moins de 50 ans, aucune comorbidité. Vous attendiez ce moment avec impatience et vous dites enfin, vous avez déjà prévu d'aller voir mercredi sur un des sites comme Doctolib pour prendre rendez-vous. Appelez-nous au 3210, vous aurez la parole après ce journal. Et puis à 6h15, nous serons avec le virologue Vincent Maréchal. Il est professeur à la Sorbonne. On lui demandera si tout cela va assez vite et si on peut espérer être tranquille cet été et même au-delà. Faut-il ou non suspendre les brevets des vaccins anti-Covid pour accélérer la production? Joe Biden a ouvert la voie. Emmanuel Macron, après avoir été contre, est désormais pour. Vladimir Poutine aussi. L'Organisation mondiale du commerce également. Et c'est important car c'est elle qui doit donner son feu vert. Mais la résistance vient évidemment du côté des laboratoires. On notera aussi les réserves d'Angela Merkel. La politique et cette nouvelle porte qui claque chez les Républicains. Christian Estrosi, le maire de Nice, annonce son départ du parti dans les colonnes du Figaro. Il était l'un des artisans du rapprochement entre Renaud Muselier et LREM en PACA. Commentaire cinglant du secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier. Il est avec Jacques Seret.
Au fond, c'est le seul moment où Christian Estrosi va faire preuve de clarté. Il se sentira plus à l'aise et nous aussi. Il va aujourd'hui faire aventure commune avec Emmanuel Macron, qui a dû lui promettre beaucoup de choses. Si j'avais des mots durs, je dirais qu'il va à la soupe. Je considère qu'il faut mettre des mots sur les choses. Quand on quitte sa famille politique, quand on va rejoindre un projet politique qu'on ne partage pas, souvent pour un poste, ça s'appelle de la trahison.
Une affaire qui fait des vagues. Dans une tribune au vitriol publiée ce matin dans le Figaro, toujours, sept personnalités des Républicains, parmi lesquelles le professeur Philippe Juvin, s'en prennent au président de la République avec ces mots « Non, monsieur Macron, tout le monde n'est pas à vendre ». Malgré l'opposition des écologistes, Jean Castex confirmera aujourd'hui l'implantation d'une gare dans le Val d'Oise dans le cadre du Grand Paris. Elle sera construite sur les terres agricoles du triangle du Grand Gonesse qui sera donc desservie par la ligne 17 du métro du Grand Paris. Ce sera d'ailleurs la seule gare du Val d'Oise sur cette ligne. C'est un nouveau sujet d'affrontement avec les défenseurs de l'environnement qui avaient réussi à faire reculer le gouvernement sur le projet du centre commercial géant d'Europa City. En football, Lens, Lille, un beau derby pour entamer la 36e journée de Ligue 1. Ce soir, les 100 et or face à leurs voisins qui rêvent de décrocher le titre. Lens fait une belle saison et pointe à la 5e place et a bien envie ce soir de montrer ses muscles. Duel de frères ennemis en vue, Franck Hanson.
Oui, ces supporters sans et or, privés de stade, ont fait passer le message à leur équipe à l'entraînement. Il faut faire chuter le rival lillois.
Pour accrocher l'Europe, il faut empêcher Lille d'être champion.
M'en fous que ce soit Paris, mais je veux pas qu'il gagne.
Un derby ch'ti qui a rarement porté autant d'enjeux, avec une rivalité historique entre ces deux cités voisines, du Nord et du Pas-de-Calais. David De Coster, de la Fédération des supporters lensois.
Faire des cadeaux, déjà, c'est pas courant dans le foot de faire des cadeaux, encore moins à Lille. Lens est quand même réputé pour cette ferveur. On n'est pas des spectateurs, c'est des supporters, il y a de l'engouement. Garder la 5e place et une victoire contre le LOSC, c'est royal. C'est l'image, c'est entre les bourgeois et les paysans, on va dire. Mais nous, on est plutôt cette image de peuple et puis on aime bien cette image.
Dans la métropole nordiste, peut-être encore bientôt championne, on a bien d'autres atouts, confirme Erwan Makwangu, un fidèle des Dogs.
À Lille, ce qu'on a de plus, on a un palmarès quand même un peu plus garni que Lens. C'est la ville aussi, hein. On va pas se mentir. Hein. C'est des histoires différentes, c'est des valeurs différentes. On se déteste cordialement. Le match aller, justement, on leur met 4-0. C'est une super fierté, hein, mettre une raclée à Lens comme ça. Que le meilleur gagne, donc que Lille gagne, vu qu'on est meilleur.
Des supporters qui ne pourront pas se répondre dans les tribunes de Bollaert, mais les policiers seront mobilisés à l'extérieur.
Lens, Lille, Stade Bollaert, coup d'envoi 21h. Allez, on termine notre semaine spéciale Napoléon à l'occasion du bicentenaire de la mort de l'empereur. Figure admirée, figure controversée qui ne laisse en tout cas personne indifférent. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Alors vous nous faites revivre depuis lundi la légende napoléonienne qui fascinait à l'époque, comme aujourd'hui on peut le dire, c'était une star.
Avant même sa mort, Napoléon Bonaparte a fasciné le monde entier et pas que le commun des mortels, ce que rappelle Philippe Perfettini, responsable des collections du musée Fesch à Ajaccio.
Quand vous avez des ambassadeurs comme Victor Hugo, comme Balzac, comme Stendhal, même Chateaubriand qu'il détestait, mais pourtant il a écrit, Chateaubriand a écrit quelques-unes des plus belles phrases sur Napoléon. Le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine, par exemple. Vous lisez ça, merde, c'est pas moi qui le dis, c'est Chateaubriand. Goethe qui rencontre Napoléon et qui raconte 30 ans plus tard, c'était un être d'ordre supérieur, c'est Goethe, oui, il y a un truc.
Un truc qui marche immanquablement depuis 200 ans et qui surprend encore Jean-Marc Olivesi, le conservateur de la maison natale de Napoléon.
Moi, je me souviens d'avoir été au fin fond des États-Unis quand j'ai dit que j'étais corse et que j'habitais à Ajaccio. On m'a dit tout de suite, oh yes, the birthplace of Napoléon. Vous y avez droit immédiatement. Les Japonais, par exemple, ont une fascination. C'est très impressionnant de les voir visiter cette maison. Les Chinois, les gens d'Europe de l'Est, les Américains du Sud.
Chaque événement attire des foules. Jean-Pierre Bertsch a organisé le bicentenaire du retour sur la route Napoléon à Laffraie.
C'est un petit village, Laffraie, de 430 habitants. Il faut savoir que lorsque nous avons refait la journée de La Salle-en-Beaumont jusqu'à Grenoble, il y avait entre 50 et 80 000 spectateurs. D'ailleurs, la NHK est venue faire un film. Ça a été vu par environ 35 millions de téléspectateurs au Japon.
Enfin, on dit qu'il y a eu autant de livres sur Napoléon que de jours depuis sa mort. Eh bien, c'est faux. C'est entre 1,5 et 2. 110 000 livres selon un dernier recensement. L'empereur est mort il y a 73 000 deux jours.
Samuel Goldschmidt est sur cette musique militaire. Marina Giraudot, vous allez nous dire qu'il y a encore un peu de fraîcheur par endroit.
Oui, là, le ciel est dégagé. On a des températures entre moins 1 et 4 degrés. Alors, c'est une petite zone qui va de la Bretagne à la Normandie, en allant vers les Hauts-de-France, l'ouest de l'Île-de-France ou encore juste au nord de la Loire. Pour les autres, c'est quand même assez nuageux. Donc, vous avez des températures plus douces. Pour les températures cet après-midi, 13 à 17 si vous êtes sur la moitié nord du pays, 18 à 20 sur le sud-ouest et 21 à 26 degrés sur le sud-est. Côté ciel, on a un temps bien perturbé sur la moitié sud et la façade est où c'est très nuageux avec pas mal de pluie. Cet après-midi, les averses vont quand même se raréfier, mais ça restera couvert sur la moitié nord, c'est-à-dire de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au sud de la Franche-Comté. Il y a juste la Côte d'Azur et la Corse qui vont conserver du ciel bleu, mais du vent en revanche. Et puis sur le nord-est, ça va aller mieux après les averses de ce matin, là, vers la Bourgogne, vers le Grand Est, vous allez retrouver un temps sec cet après-midi. Un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Et puis ce sera plutôt un temps assez ensoleillé pour les Hauts-de-France, pour la région parisienne, pour la Normandie, le nord de la Loire. Alors le nord de la Loire et la Bretagne, le soleil ne durera que le matin parce que l'après-midi ce sera un petit peu plus nuageux, mais ce sera sec. Avec un risque d'avalanche fort aussi sur le nord des Alpes à signaler parce qu'il a beaucoup neigé hier.